Voix Nue. Cette semaine, Johanna Bedeau rencontre Emmanuel DeVos. Ce soir, une bande et des sensations fortes.
C'est dans le beau quartier des Invalides à Paris que vous grandissez avec votre sœur Valentine. Un quartier où toute la famille évolue à quelques pâtés de maison les uns des autres, car votre grand-père, héros de la guerre de 14, y vivait dans un appartement de fonction. Fille de comédien, vous quittez le lycée en classe de première pour vous consacrer au théâtre, après une scolarité douloureuse. Ouvreuse au théâtre, élève au cours Florent et à l'école du cirque Fratellini, vous apprenez alors à vous construire et à identifier vos émotions. Après des débuts difficiles où vous écumez les castings, les cinéastes Noémie Lvovsky et Arnaud Desplechin sont parmi les rencontres personnelles et professionnelles majeures de votre vie. Discrète et émotive, mais aussi forte et franche, vous avez la réputation de vous faire entendre sans chercher à vous montrer. Bonsoir Emmanuel DeVos.
Bonsoir.
À votre sortie du cours Florent, vous ne faisiez pas encore beaucoup de théâtre, mais vous ne pensiez pas non plus au cinéma, c'était pas votre monde ?
Non, alors oui, le cinéma des années 85-86, fin 80, très franchement, d'abord, je pense que je ne voyais pas beaucoup de films français de cette époque. Et puis quand j'avais un peu des castings, quoi, ça fonctionnait jamais. Je m'identifiais pas à ce cinéma-là, de toute façon. Donc il ne venait pas à moi et moi je venais pas à lui. Et non, j'ai des souvenirs comme ça de casting pour Benex ou pour et moi j'aimais pas ce cinéma-là. J'aimais pas dès qu'on voyait des films, les filles étaient à poil au bout de 5 minutes. Il y avait un truc très violent, un peu dégueulasse, un peu très misogyne. Ça me faisait pas du tout rêver, quoi. Je pensais pas du tout au cinéma. Et j'ai fait un petit peu des pièces. J'ai joué un petit peu, mais j'ai surtout travaillé à côté parce que voilà, je travaillais. J'étais pas engagée nulle part. Et puis un jour, le cours Florent m'appelle et me dit voilà, à la Fémis, ils ont besoin de cobayes pour un stage de direction d'acteur dirigé par Chantal Akerman. J'ai proposé ton nom, j'ai proposé le nom de Yvan Attal et de je sais plus qui d'autre, Marion Laine. Donc nous sommes retrouvés tous les trois avec une classe de jeunes apprentis réalisateurs et scénaristes. Et là, j'ai rencontré Noémie Lvovsky. Et Noémie m'a tout de suite dit, écoute, je fais mon court-métrage. Donc on fait ce stage qui était très intéressant avec tous ces jeunes réalisateurs. Et la seule qui parlait aux acteurs, parce qu'ils avaient tous peur des acteurs, c'était Noémie. Parce qu'elle-même avait pris des cours de théâtre et tout, connaissait les acteurs. Et donc, voilà, donc je rencontre Noémie, et à partir du moment où j'ai rencontré Noémie, j'ai rencontré ma famille de cinéma. J'ai rencontré mes copains de cinéma, quoi. J'ai rencontré Rochin, Desplechin, notamment, enfin surtout Arnaud. Et j'ai fait le court-métrage de sortie de Fémis de Noémie. Dis-moi oui, dis-moi non. Avec Valéria, Bruni Tedeschi, il y avait Emmanuel Salinger, Olivier Py, Nicolas Briançon. Et on tourne ce court-métrage. Et après, je reste très, très, très amie avec Noémie. Et Noémie me présente, déjà me dit que je suis faite pour le cinéma, ce qui, moi, elle me dit, mais t'es photogénique. Elle me très complimenteuse. Et puis elle me présente toute sa bande, parce que Noémie avait... Ça a toujours été ma chance, moi, c'est d'avoir mes amis étaient des gens extrêmement sociaux et populaires. Donc moi, comme un poisson pilote, j'étais dans la vague et je suivais. Vous voyez, comme ces petits poissons là qui suivent les requins ou les baleines qui sont là. Moi, j'étais dans... Voilà.
C'est pas rien une phrase comme ça, tu es faite pour le cinéma.
Ah non, c'est pas rien.
Tu es faite pour les gros plans.
Oui, tu es faite pour les gros plans. Ah oui, c'est pas rien. Mais c'est toujours pareil, on s'en rend pas compte sur le coup, on fait « Ah ouais, super !» Mais après on se dit « Mon Dieu, mais quelle phrase folle !» Et puis
ça marque, j'imagine.
Ça marque, ouais. Et puis après, Bah voilà, après j'ai rencontré, Noémie s'occupait du casting de La vie des morts, le premier film de Arnaud Desplechin. Et j'ai rencontré Arnaud à ce moment-là, on a tourné La vie des morts, et après j'avais trouvé mon... J'ai tourné un peu avec Rochon aussi, enfin j'ai trouvé... En fait, il fallait que je fasse du cinéma avec des gens de ma génération. Il fallait pas que je fasse du cinéma avec les vieux briscards qui faisaient des films où on mettait les filles à poil au bout de 5 secondes.
Et alors cette rencontre, quand vous dites que Noémie Lvovsky s'occupait du casting de La vie des morts, donc vous vous retrouvez sur ce film-là, comment se passe cette rencontre? Il commence à peine, lui aussi, Arnaud Desplechin, et vous êtes quand même tous deux très imprégnés par le théâtre?
Oui. Ah oui, il était très marqué par Chéreau. Enfin, il l'est toujours. Oui, Arnaud est très marqué par Chéreau. D'ailleurs, dans La vie des morts, il y avait Thibaut de Montalembert, Marianne Denicourt, qui avait fait l'école des Amandiers, dont Valéria a fait un film. Oui, c'est. Bah, j'ai un souvenir incroyable. Arnaud était très, très cultivé, notamment théâtralement, parce qu'à un moment, il a récité sur le plateau pour nous mettre à l'aise. Je ne sais pas pourquoi il avait fait ça, je ne me souviens plus. Toute la tirade de Richard III. Toute la grande tirade de Richard III. Moi, j'étais soufflée. Je dis, mais qui ? De toute façon, moi, j'étais soufflée par Arnaud dès le début sur ce tournage. Son charisme, sa culture incroyable, sa manière de dire les choses pas du tout conventionnelles, cette attention aux acteurs inouïe. Déjà, c'est pas venu avec le temps, il l'a toujours eu. Ce talent, ça se voyait tout de suite. Ça se voyait tout de suite qu'on était avec un grand réalisateur. Tout de suite. Et c'était un tournage, c'était tellement amusant. On était donc dans la maison des parents d'Arnaud. Donc c'était drôle. On était à Lille, c'était très amusant.
J'aimerais bien que vous nous racontiez ce théâtre des Amandiers, où vous avez failli finalement...
Ah oui, à l'histoire des Amandiers, ouais, c'est drôle. C'est-à-dire que ça a commencé, donc Pierre Roman avait été mon professeur au cours Florent. Ensuite, je suis engagée par Francis Huster pour jouer le Cid au théâtre du Rond-Point, donc au même moment. Et une des actrices qui jouait dans le Cid, Nadine Spinoza, je me souviens, me demande de lui donner la réplique pour aller passer l'audition au théâtre des Amandiers, pour l'école des Amandiers. Et j'arrive là-bas, et à la fin de l'audition, Pierre Roman me croise et me dit « Mais Emmanuel, pourquoi tu t'es pas inscrite ? J'ai pas vu ton nom, t'es pas venue passer l'audition qui était une première audition, c'était un entretien. » Je dis « Mais non, mais parce que là, je joue, je vais reprendre... » C'était le moment où je reprenais le rôle de Chimène. Je dis « Je vais jouer Chimène au théâtre du Rond-Point, donc... Moi, j'étais habitée par ça totalement, donc j'ai pas pensé. » Il dit « Bon, ah, écoute, mais tu veux passer l'examen ?» Je dis « Bah ouais, totalement inconsciente. » Il dit « Bon, allez, alors tu passes direct le deuxième tour. » Donc je passe le deuxième tour. Je l'ai. Et le troisième tour, c'était un stage d'une semaine avec Claude Stratz, metteur en scène de théâtre. Et j'y suis allée... J'y suis allée trois fois. C'est-à-dire que comme je jouais le soir, moi j'étais avec ma Chimène, moi j'étais obsédée par ce truc, je ne me rendais pas compte du tout. Donc, évidemment, ils ne m'ont pas pris, parce que je suis venue que trois jours sur sept. Ils se sont dit, bon, bah, elle n'a pas envie de venir. Et ce qui est drôle, c'est que Gilles Cohen, qui est donc le père de mes enfants, qui était aussi dans le CID, lui, il a été pris quand même. Mais il est parti au bout de trois jours parce qu'il trouvait que les gens n'avaient pas d'humour. Donc, on était les deux dissidents. Alors que tout le monde rêvait d'entrer dans cette école. Mais moi, je bénis les dieux, je bénis ma bonne étoile de ne pas y avoir été. Parce que c'était sympa comme école, mais c'était très, très dur.
Vous auriez eu peur que quoi que ça
Ah bah moi, ça m'aurait broyé. Moi, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Il y en a plus d'une que ça a broyé. Enfin, j'en ai beaucoup parlé avec Agnès Jaoui. Elle n'était pas follement heureuse d'être là-bas. Hein. C'était très difficile. Après, il y en a qui... Les plus forts s'en sont sortis. Mais c'était dur. Je crois que c'était à la fois complètement exaltant. J'ai hâte de voir le film de Valéria, d'ailleurs, à Cannes, sur ce qu'elle en a fait. Mais ce n'était pas évident. Mais donc voilà mon aventure, et je me suis toujours dit, que moi j'avais eu le meilleur de Pierre Roman au cours Florent, c'était très bien comme ça, parce que c'était un homme extraordinaire, vraiment. Sandrine Kiberlin, qui était avec moi aussi dans ce stage qu'il avait fait aussi après, on avait fait encore un stage avec lui au cours Florent, on l'adore toutes les deux, Sandrine et moi on en parle souvent, ouais. Il nous a appris des choses essentielles.
Quand vous rencontrez Arnaud Desplechin pour La Vie des Morts, quand vous vous voyez au café, je crois, vous racontiez qu'il était presque timide, il vous parle tout bas et vous n'arrivez pas à entendre réellement ce qui s'y passe.
Ah oui, mais ça c'est le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est pas au café, c'est à la production, où j'étais en face de lui, il parlait tellement doucement que je n'ai absolument rien entendu de ce qu'il m'a dit. Je trouvais j'aimais bien ce garçon, un peu timide, avec ses petits cheveux blonds pointés sur la tête, sur le crâne. Il avait l'air doux, il avait l'air intelligent, mais je n'ai rien entendu. Tellement il parlait doucement.
Et vous n'osez pas lui demander de hausser la voix ?
Non, parce que deux timides qui se rencontrent, c'est... Et puis ensuite, j'ai lu le scénario et j'aimais pas le rôle en plus. Déjà, j'entends pas ce qu'il dit, puis j'aime pas le rôle. Donc avec ça, on va pas aller loin. Mais c'est... Et ça, oui, tout ça, c'est grâce à Noémie. Noémie a une place vraiment définitivement solaire et indispensable. Parce que non seulement elle... Bon, j'avais fini son court-métrage, mais avec elle, j'ai rencontré des tas de gens très intelligents, très importants. Pour moi, personnellement, hein, pour même ma construction culturelle et psychologique, c'était des gens avec qui il fallait batailler dans les idées, fallait pouvoir dire des choses, quoi, fallait suivre. Hein, c'était des gens très cultivés, donc il fallait tout d'un coup avoir un avis sur Sergio Leone ou sur Bergman, hein, sinon vous passez un peu pour la cruche de service. Hein. Mais alors c'était Noémie, ouais, vraiment hyper important.
Donc vous commencez à tourner beaucoup plus régulièrement après ce premier film d'Arnaud Desplechin. Cette bande qui vous entoure, vous vivez un peu avec eux, à leur côté, vous sortez beaucoup.
Au début, oui. Jusqu'à ce qu'après, tout le monde a une vie un peu plus personnelle, ou se marie, va avoir des enfants. Mais c'est vrai que pendant peut-être 3-4 ans, après La Vie des Morts, ça a été, c'était très joyeux de se retrouver chez Cocheteux, le producteur de Why Not Production, qui organisait beaucoup de fêtes chez lui. Et voilà, ça bouillonnait dans tous les sens. C'était une vraie joie de vivre quand même. Hein. C'était très... c'était un peu âpre, hein, parce que c'est des personnalités très fortes et quelquefois un petit peu dures, mais c'était quand même très joyeux. Et c'était très vivifiant d'être à leur côté.
Quand vous rencontrez cette bande dont vous parlez, cette bande, donc Éric Rochant, Noémie Lvovsky, Arnaud Desplechin, c'est un moment où vous arrivez à vous laisser aller, à sortir, vous avez assez d'argent pour les suivre. C'est quand même, c'est toute cette mouvance d'auteurs émergée dans les années 90, c'était... Qu'est-ce que vous éprouvez ? Vous arrivez à les suivre comme ça ? Sans gêne ? Vous vous sentez à votre place tout de suite ?
Oui, parce qu'on a le même âge. Et puis c'est pas... Après, oui, on sortait. Noémie m'invitait beaucoup. Hein. Noémie, je lui dois beaucoup, notamment de l'argent, je pense. La pauvre, j'ai dû lui coûter cher quand même. Mais c'était le centre de ma vie. Hein, et c'était vraiment important. Ils étaient vraiment. Ça a duré peut-être 3 ans comme ça. Oui, c'est.
3 ans comme ça à ce moment-là où vous voulez quand
oui,
vous commencez.
Oui, 3 ans
à...
où on va voir des films, on décortique les films après, où on va au théâtre, pareil, où ça discute, ça parle, c'est permanent, quoi, des échanges de paroles permanents, c'est fou, quand j'y pense, oui, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait rien, aussi, je sais pas, enfin, il y a encore sûrement des jeunes de 20 ans, 25 ans qui sont dans l'action dans quelques domaines que ce soit, mais là, ouais, c'était de l'effervescence en bar, hein, comme dirait Noémie. Ouais, c'était très... C'est, puis ça s'aime, ça se désaime, ça sort avec l'un, sort avec l'autre, des histoires inouïes, des drames sentimentaux, puis ils sont si vite oubliés, des lettres qu'on s'envoie, d'insultes. C'était drôle. Non, mais c'était vivant, quoi, au moins.
Et c'est à ce moment-là, Emmanuel De Vos, que le cinéma devient un monde accessible et familier.
C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai commencé à tourner, j'ai jamais été, par exemple, impressionnée par la caméra. Enfin, j'ai pas eu à apprendre à me placer devant la caméra, c'est venu vraiment tout seul. J'avais pas de soucis avec la technique, moi j'ai toujours adoré l'objet caméra. J'ai toujours trouvé que c'était... J'ai tout de suite adoré être devant une caméra, de l'ambiance des tournages, se lever tôt pour aller sur un... attendre. Alors maintenant, on attend presque plus. Hein. Mais j'ai tout de suite aimé ça, ouais. J'ai tout de suite aimé ça.
Et dans ce nouveau monde, vous apprenez à vous construire. Vous dites, quand vous évoquez cette période, que j'ai tellement appris, y compris à dire devant eux.
Ah bon, j'ai dit ça? Oui, mais c'est toujours pas... Oui, c'est une... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est il fallait prendre parti un peu. Ils étaient un petit peu, c'était un peu des trotskistes. Hein. Ils étaient un peu, ils se sont beaucoup adoucis hein, tous hein, en vieillissant. Ils sont devenus plus indulgents parce qu'ils étaient durs. C'est-à-dire qu'il y avait le cinéma de gauche, le cinéma de droite, Sauté c'est pas bien, Truffaut c'est formidable. Et donc à un moment, j'ai un peu fait béni oui oui. Puis à un moment, je me dis mais attends. Oui, enfin, moi, j'adore Claude Sautet, hein, donc voilà. Donc, il faut quand même commencer à le dire et dire pourquoi. Et à partir du moment où on le dit et on dit pourquoi, bah, tout est accepté. Je me suis rendu compte de ça. Tout est accepté. Enfin, voilà, il suffit de prendre la parole et on vous écoute.
Et de se positionner.
Et de se positionner, de ne pas être là comme un suiveur. Enfin, arrêter de faire le poisson pilote, quoi.
Je reviens à Arnaud Desplechin tout à l'heure quand vous disiez que vous le rencontrez pour ce tout premier rôle. Quand vous recevez le scénario de La vie des morts, vous aimez l'histoire mais pas du tout le rôle.
Ah non, mais ça c'est exceptionnel quand on y repense déjà. Je reçois le scénario. Voilà, je trouve le scénario top, mais alors mon rôle, Laurence, mais alors pas du tout. Et j'ai un souvenir d'un coup de téléphone de Arnaud qui m'a appelé pour me convaincre de jouer ce rôle. Non mais j'étais... Mais c'est merveilleux en même temps d'avoir cette innocence. Parce que je comprenais pas. Et je me souviens d'Éric Gauthier, qui est le chef opérateur, qui était le mari de ma sœur, de Valentine, me disant, mais tu sais, il est très doué. Hein. Moi j'ai fait déjà un court-métrage avec lui, il est très très doué, je te conseille quand même d'y aller. Donc j'y suis allée, mais presque à reculons. Non mais c'est fou quand on y pense. Et après, évidemment, comme c'était le rôle extérieur à la famille, moi, je dis, ah bon, mais elle est extérieure à la famille, c'est pas drôle. Tous, ils
sont
là,
rapportée.
C'est la pièce rapportée. Et l'autre, quand elle sort de la pièce, ils disent, ouais, elle est moche et puis elle a l'air con. Et après, Arnaud m'expliquant, mais non, mais parce qu'ils sont jaloux. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai su que lire un scénario de Desplechin, il faut toujours, pas forcément, faut vraiment lire entre les lignes. Si on dit de quelqu'un qu'il est con et moche, c'est peut-être parce qu'il est très beau et très intelligent, par exemple. Et donc, mais il fallait comprendre ce langage-là. Enfin, c'était pas évident. Moi, j'étais là, j'avais 24 ans, 23, je sais pas quel âge j'avais. Ben, je connaissais pas, quoi. Et qu'il était un peu, quand même, tordu, le garçon, hein. Donc, voilà. Il fallait apprendre son langage.
Et alors, c'est aussi une période de votre vie où vous apprenez à vous construire avec le cinéma, mais c'est aussi une période de votre vie avec des gros coups durs qui changent toute une vie. La mort de votre sœur Valentine le 24 octobre 1995.
Oui, ça c'est bien après quand même. Bon, ça provoque. Qu'est-ce que ça provoque? Ben, vous perdez un bras, vous perdez votre enfance, voilà. Mm. Vous perdez tout ce qui a le témoin, la seule témoin de, puisqu'on est deux, voilà, on n'était que deux, on est très proches en âge, pas très proches en caractère, mais très proches en âge. Ben, vous perdez le témoin de voilà, tout ce qui vous a construit, toute votre enfance et avec plus personne. Vous pourrez partager. Tu te rappelles quand il y avait cet arbre à côté de la maison, chez mamie, et qu'il y avait une branche qui était très souple, et ça nous faisait comme une balançoire, et on restait des heures. Tu te rappelles, quand on avait été se promener, on s'était perdu. Tu te rappelles, bah, vous n'avez plus, voilà. Il n'y a plus le témoin. Vous êtes toute seule avec vos souvenirs. Et c'est d'une violence incroyable. Parce que, en plus, c'est pas quelque chose qui est très, on veut dire, reconnu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, moi, j'ai perdu mon frère, on fait, ah oui, c'est pas quelque chose qui, alors qu'il y a des, par exemple, il y a un livre magnifique de Jean-Marie Laclavetine sur, où il parle de sa sœur aînée qui est morte dans un accident, qui est emportée par une vague à Biarritz. Il fait tout un livre sublime sur une absence-présence comme ça. Et là, moi, je me suis dit après, je dis bon, allez, là, il faut vivre pour deux. Hein. Ce qui est un moteur, mais un poids aussi. Voilà, vous êtes. Parce que ma sœur, Valentine, elle, c'était quelqu'un de très. Dans les enfances, moi, j'étais la secrète, la mélancolique, là, dans les bouquins. Et elle, c'était une femme d'équitation. Elle était à l'école, elle me faisait du cheval à l'école militaire. Elle était d'une énergie incroyable. Très rentre-dedans, très dynamique.
Elle travaillait aussi dans le cinéma.
Elle était script, ouais. Et voilà, elle m'apportait aussi ce côté un peu... Elle me boostait aussi un peu, comme moi au début. Elle me dit, mais il faut que tu ailles voir des castings, il faut que tu fasses ça. Alors moi, je rechignais un peu, mais elle était comme ça. Et ce qui est dommage, c'est que je pense que on a... J'ai pas eu l'occasion, voilà, j'ai raté l'occasion. Enfin, j'ai rien raté, c'est pas de ma faute si elle est tombée malade et qu'elle est morte, mais j'aurais pu, à mon tour, je suis sûre qu'elle serait devenue productrice et tout. J'aurais pu à mon tour la soutenir et être, voilà, on aurait pu mélanger un peu nos caractères. Enfin, ça aurait été, on serait partagé un peu, voilà, l'héritage de notre enfance, quoi.
Et pourquoi vous dites je suis sûre qu'elle serait devenue productrice?
Oh, parce que ça l'intéressait de raconter des histoires. Et un producteur, c'est pas que quelqu'un qui va chercher de l'argent, c'est quelqu'un qui aime aussi raconter l'histoire qu'on lui amène. Et qui, donc oui, je pense qu'elle aurait vraiment intéressé. Puis bon, voilà, non, c'est dramatique pour toute la famille, hein, mais c'est, oui, que dire. C'est comme ça.
Et plus on vieillit, plus on réalise le manque, c'est...
Ah non, ça s'arrête pas. Ça grandit même. C'est faut se le dire. Hein. C'est pas du... Faire son deuil, ça n'existe pas. Hein. Je connais personne... Enfin, ou qu'on me dise comment il faut faire. On accepte la mort de quelqu'un, bien sûr, mais c'est pas ça, faire son deuil. Mais en fait, parce qu'on peut pas oublier les gens. Au contraire, il faut penser à eux souvent. Moi, je pense à elle très souvent. Je lui parle, enfin pas tout le temps, je suis pas dingue, mais mais voilà, je me retrouve seule face à des situations, même face à ma mère maintenant qui c'est difficile, quoi. On était un trio, c'est pas facile de passer du trio au duo, parce qu'on a vécu un peu en trio avant que maman rencontre mon beau-père Benoît, qui a été aussi très important dans ma vie. Et dans notre vie. Et ce trio-là, voilà, vous vous trouvez en duo. C'est moins drôle.
Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On a l'impression d'absorber est-ce que vous avez eu l'impression comme ça d'absorber ce qu'elle était?
Je me suis juste dit, il faut que je vive pour deux. Si cette phrase revenait sans que je le veuille dans ma tête. Faut que je vive pour deux. Elle a pas pu. Ça s'est arrêté à 33 ans pour elle. Moi, il faut que je. Je peux plus traînouiller comme ça. Il faut que ça. C'est même pas une histoire de. Elle aurait été fière de moi. C'est ce genre de conneries auxquelles je ne crois absolument pas. Mais il y a une vie qui s'est éteinte. Il faut. Mais bon, je sais pas. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas.
Pour la Saint-Valentin, vous avez publié un post sur Instagram. Valentine, tu me manques. 25 ans sans toi, on ne s'habitue jamais. Il y a un truc que tu n'as pas connu qui s'appelle Instagram et où je peux te faire connaître dans la beauté de tes 25 ans. Et bizarrement, cela me fait du bien et plaisir de te présenter au monde.
Oui, c'est vrai que moi, j'aime bien parler d'elle parce que ça la rend vivante pour d'abord des gens qui l'ont connue. Et quand j'ai posté ça sur Instagram, il y a des amis à elle qui m'ont écrit. C'était super. J'ai eu des nouvelles d'elle de manière différente que par la famille. Et c'était très agréable.
On l'a fait exister. Vous l'avez fait exister.
Oui, oui. Mais je veux la faire exister jusqu'à ce que moi, je disparaisse. On ne peut pas disparaître comme ça. C'est trop triste.
Merci Emmanuel De Vos.
Merci.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Emmanuel De Vos. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Patrick Muller, attaché de production, Daphné Abgrad. Coordination, Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.